De Marsay, suivant une expression de la langue des dandys, voyait avec un indicible plaisir des grignons s'enfonçant. Il prenait plaisir à s'appuyer le bras sur son épaule avec toutes les chatteries de l'amitié pour y peser et le faire disparaître plus tôt, car il était jaloux de l'éclat avec lequel s'affichait la duchesse pour d'Esgrignon quand elle avait réclamé le huis clos pour lui. C'était d'ailleurs un de ces rudes goguenards qui se plaisent dans le mal comme les femmes turques dans le bain. Aussi, quand il eut remporté le prix de la course et que les parieurs furent réunis chez un aubergiste où ils déjeunèrent et où l'on trouva quelques bonnes bouteilles de vin, de Marsay dit-il en riant à d'Esgrignon « Ces mémoires, dont tu t'inquiètes, ne sont certainement pas les tiens. » « Et s'en inquiéterait-il ? » répliqua Rastignac. « Et à qui appartiendrait-il donc ? » demanda d'Esgrignon. « Tu ne connais donc pas la position de la duchesse ? » dit de Marsay en remontant à cheval. « Non, » répondit d'Esgrignon intrigué. « Eh bien, mon cher, » repartit de Marsay, « voici, 30 000 francs chez Victorine, 18 000 francs chez Houbigan, un compte chez Herbeau, chez Nattier, chez Nourtier, chez les petites Latour, en tout, 100 000 francs. « Un ange !» dit d'Esgrignon en levant les yeux au ciel. « Voilà le compte de ses ailes !» s'écria bouffonnement Rastignac. « Elle doit tout cela, mon cher, » répondit de Marsay, « précisément parce qu'elle est un ange. Mais nous avons tous rencontré des anges dans ces situations-là, » dit-il en regardant Rastignac. « Les femmes sont sublimes, en ceci qu'elles n'entendent rien à l'argent. Elles ne s'en mêlent pas, cela ne les regarde point. Elles sont priées au banquet de la vie, selon le mot de je ne sais quel poète crevé à l'hôpital. » « Comment savez-vous cela, tandis que je ne le sais pas ?» répondit naïvement d'Esgrignon. « Tu seras le dernier à le savoir, comme elle sera la dernière à apprendre que tu as des dettes. »« Je lui croyais 100 000 livres de rente, » dit d'Esgrignon. Son mari, reprit de Marsay, est séparé d'elle et vit à son régiment où il fait des économies, car il a quelques petites dettes aussi, notre cher duc. « D'où venez-vous ? Apprenez donc à faire comme nous les comptes de vos amis. Mademoiselle Diane, je l'ai aimée pour son nom, Diane d'Uxelles, s'est mariée avec 60 000 livres de rente à elle. Sa maison est depuis 8 ans montée sur un pied de 200 000 livres de rente. Il est clair qu'en ce moment, ces terres sont toutes hypothéquées au-delà de leur valeur. Il faudra quelque beau matin fondre la cloche et l'ange sera mis en fuite par... Faut-il le dire ? Par des huissiers qui auront l'impudeur de saisir un ange comme ils empoigneraient l'un d'entre nous. Pauvre ange ! Eh, mon cher, il en coûte fort cher de rester dans le paradis parisien. Il faut se blanchir le teint et les ailes tous les matins, dit Rastignac. Comme il était passé par la tête de d'Esgrignon d'avouer ses embarras à sa chère Diane, il lui passa comme un frisson en pensant qu'il devait déjà 60 000 francs et qu'il avait pour 10 000 francs de mémoires à venir. Il revint assez triste. Sa préoccupation mal déguisée fut remarquée par ses amis qui se dirent à dîner. « Ce petit d'Esgrignon s'enfonce, il n'a pas le pied parisien, il se brûlera la cervelle, c'est un petit sot, etc. » Le jeune comte fut consolé promptement. Son valet de chambre lui remit 2 lettres. D'abord, une lettre de Chesnel, qui sentait le rance de la fidélité grondeuse et des phrases rubriquées de probité. Il la respecta, la garda pour le soir. Puis une seconde lettre, où il lut avec un plaisir infini les phrases cicéroniennes par lesquelles Du Croisier, à genoux devant lui comme Sganarelle devant Géronte, le suppliait à l'avenir de lui épargner l'affront de faire déposer à l'avance l'argent des lettres de change qu'il daignerait tirer sur lui. Cette lettre finissait par une phrase qui ressemblait si bien à une caisse ouverte et pleine d'écus au service de la noble maison d'Esgrignon que Victurnien fit le geste de Sganarelle, de Mascarille et de tous ceux qui sentent des démangeaisons de conscience au bout des doigts. En se sachant un crédit illimité chez les Keller, il décacheta gaiement la lettre de Chesnel. Il s'attendait aux 4 pages pleines, à la remontrance débordant à plein bord. Il voya déjà les mots habituels de prudence, honneur, esprit de conduite, etc., etc. Il eut le vertige en lisant ces mots. « Monsieur le comte, il ne me reste, de toute ma fortune, que 200 000 francs. Je vous supplie de ne pas aller au-delà. Si vous faites l'honneur de les prendre au plus dévoué des serviteurs de votre famille et qui vous présente ses respects. » Chesnel. C'est un homme de plus tard que se dit Victurnien en jetant la lettre sur la table. Il éprouva du dépit, il se sentait petit devant tant de grandeur. Allons, il faut se réformer, se dit-il. Au lieu de dîner au restaurant, où il dépensait à chaque dîner entre 50 et 60 francs, il fit l'économie de dîner chez la duchesse de Maufrigneuse, à laquelle il raconta l'anecdote de la lettre. « Je voudrais voir cet homme-là, » dit-elle en faisant briller ses yeux comme 2 étoiles fixes. « Qu'en feriez-vous ? Mais je le chargerai de mes affaires. » Diane était divinement mise. Elle voulut faire honneur de sa toilette à Victurnien, qui fut fasciné par la légèreté avec laquelle elle traitait ses affaires, ou plus exactement ses dettes. Le joli couple alla aux Italiens. Jamais cette belle et séduisante femme ne parut plus séraphique ni plus éthérée. Personne dans la salle n'aurait pu croire aux dettes dont le chiffre avait été donné le matin même par de Marsay à d'Esgrignon. Aucun des soucis de la terre n'atteignait à ce front sublime, plein des fiertés féminines les mieux situées. Chez elle, un air rêveur semblait être le reflet de l'amour terrestre noblement étouffé. La plupart des hommes pariaient que le beau Victurnien en était pour ses frais, contre des femmes sûres de la défaite de leur rival, et qu'il admirait comme Michel-Ange admirait Raphaël, in petto. Victurnien aimait Diane, selon celle-ci, à cause de ses cheveux, car elle avait la plus belle chevelure blonde de France. Selon celle-là, son principal mérite était sa blancheur, car elle n'était pas bien faite, mais bien habillée. Selon d'autres, d'Esgrignon l'aimait pour son pied, la seule chose qu'elle eut de bien, elle avait la figure plate. Mais ce qui peint étonnamment les mœurs actuelles de Paris. D'un côté, les hommes disaient que la duchesse fournissait au luxe de Victurnien. De l'autre, les femmes donnaient à entendre que Victurnien payait, comme disait Rastignac, les ailes de cet ange. En revenant, Victurnien, à qui les dettes de la duchesse pesaient bien plus que les siennes, eut 20 fois sur les lèvres une interrogation pour entamer ce chapitre. Mais 20 fois, elle expira devant l'attitude de cette créature divine, à la lueur des lanternes de son coupé, séduisante de ces voluptés qui, chez elle, semblaient toujours arrachées violemment à sa pureté de madone. La duchesse ne commettait pas la faute de parler de sa vertu, ni de son état d'ange, comme les femmes de province qui l'ont imitée. Elle était bien plus habile, elle y faisait penser celui pour qui elle commettait de si grands sacrifices. Elle donnait, après 6 mois, l'air d'un péché capital au plus innocent baisement de main. Elle pratiquait l'extorquement des bonnes grâces, avec un art si consommé qu'il était impossible de ne pas la croire plus ange avant qu'après. Il n'y a que les Parisiennes, assez fortes pour toujours donner un nouvel attrait à la lune et pour romantiser les étoiles, pour toujours rouler dans le même sac à charbon et en sortir toujours plus blanches. Là est le dernier degré de la civilisation intellectuelle et parisienne. Les femmes d'au-delà le Rhin ou la Manche croient à ces sornettes quand elles les débitent, tandis que les Parisiennes y font croire leurs amants pour les rendre plus heureux en flattant toutes leurs vanités temporelles et spirituelles. Quelques personnes ont voulu diminuer le mérite de la duchesse en prétendant qu'elle était la première dupe de ces sortilèges. Infâme calomnie ! La duchesse ne croyait à rien qu'à elle-même. Au commencement de l'hiver, entre les années 1823 et 1824, Victurnien avait chez les Keller un débet de 200 000 francs, dont ni Chesnel ni Mademoiselle Armande ne savaient rien. Pour mieux cacher la source où il puisait, il s'était fait envoyer de temps à autre 2000 écus par Chesnel. Il écrivit des lettres mensongères à son pauvre père et à sa tante qui vivaient heureux, abusés comme la plupart des gens heureux. Une seule personne était dans le secret de l'horrible catastrophe que l'entraînement fascinateur de la vie parisienne avait préparée à cette grande et noble famille. Du Croisier, en passant le soir devant le cabinet des antiques, se frottait les mains de joie. Il espérait arriver à ses fins. Ses fins n'étaient plus la ruine, mais le déshonneur de la maison d'Esgrignon. Il avait alors l'instinct de sa vengeance, il la flairait. Enfin, il en fut sûr, dès qu'il sut au jeune comte des dettes sous le poids desquelles cette jeune âme devait succomber. Il commença par assassiner celui de ses ennemis qui lui était le plus antipathique, le vénérable Chesnel. Ce bon vieillard habitait rue du Bercail, une maison à toit très élevé, à petite cour pavée, le long des murs de laquelle montaient des rosiers jusqu'au premier étage. Derrière était un jardinet de province, entouré de murs humides et sombres, divisé en plates-bandes par des bordures en buis. La porte, grise et proprette, avait cette barrière à claire-voie armée de sonnettes qui dit autant que les panonceaux « Ici respire un notaire ». Il était 5h30 du soir, moment où le vieillard digérait son dîner. Chesnel était dans son vieux fauteuil de cuir noir devant son feu. Il avait chaussé l'armure de carton peint, figurant une botte avec laquelle il préservait ses jambes du feu. Le bonhomme avait l'habitude d'appuyer ses pieds sur la barre et de tisonner en digérant. Il mangeait toujours trop. Il aimait la bonne chair. Hélas, sans ce petit défaut, n'eût-il pas été plus parfait qu'il n'ait permis à un homme de lettres. Il venait de prendre sa tasse de café. Sa vieille gouvernante s'était retirée en emportant le plateau qui servait à cet usage depuis 20 ans. Il attendait ses clercs avant de sortir pour aller faire sa partie. Il pensait « ne demandez pas à qui ni à quoi ». Rarement une journée s'écoulait sans qu'il se fût dit « Où est-il? Que fait-il » Il le croyait en Italie avec la belle Maufrigneuse. Une des plus douces jouissances des hommes qui possèdent une fortune acquise et non transmise est le souvenir des peines qu'elle a coûtées et l'avenir qu'ils donnent à leurs écus. Ils jouissent à tous les temps du verbe. Aussi cet homme, dont les sentiments se résumaient par un attachement unique, avait-il de doubles jouissances en pensant que ces terres, si bien choisies, si bien cultivées, si péniblement achetées, grossiraient les domaines de la maison d'Esgrignon. À l'aise dans son vieux fauteuil, il se carrait dans ses espérances. Il regardait tour à tour l'édifice élevé par ses pincettes avec des charbons ardents et l'édifice de la maison d'Esgrignon relevé par ses soins. Il s'applaudissait du sens qu'il avait donné à sa vie, en imaginant le jeune comte heureux. Chesnel ne manquait pas d'esprit, son âme n'agissait pas seule dans ce grand dévouement. Il avait son orgueil, il ressemblait à ces nobles qui rebâtissent des piliers dans les cathédrales en y inscrivant leur nom. Il s'inscrivait dans la mémoire de la maison d'Esgrignon. On y parlerait du vieux Chesnel. En ce moment, sa vieille gouvernante entra, en donnant les marques d'un effarouchement excessif. « Est-ce le feu, Brigitte ?» dit Chesnel. « C'est quelque chose comme ça, » répondit-elle. « Voici Monsieur Ducroisier qui veut vous parler. »« Monsieur Ducroisier ?» répéta le vieillard, si cruellement atteint jusqu'au cœur par la froide lame du soupçon qu'il laissa tomber ses pincettes. « Monsieur Ducroisier, ici, pensa-t-il, notre ennemi capital ?» Ducroisier entrait alors avec l'allure d'un chat qui sent du lait dans un office. Il salua, prit le fauteuil que lui avançait le notaire, s'y assit tout doucettement et présenta un compte de 227 000 francs, intérêts compris, formant le total de l'argent avancé à Monsieur Victurnien en lettres de change tirées sur lui, acquittées, et desquelles il réclamait le paiement sous peine de poursuivre immédiatement avec la dernière rigueur l'héritier présomptif de la maison d'Esgrignon. Chesnel mania ses fatales lettres une à une, en demandant le secret à l'ennemi de la famille. L'ennemi promit de se taire, s'il était payé dans les 48 heures. Il était gêné, il avait obligé des manufacturiers. Ducroisier entama cette série de mensonges pécuniaires qui ne trompent ni les emprunteurs ni les notaires. Le bonhomme avait les yeux troublés, il retenait mal ses larmes, il ne pouvait payer qu'en hypothéquant ses biens pour le reste de leur valeur. En apprenant la difficulté qu'éprouverait son remboursement, Ducroisier ne fut plus gêné, n'eut plus besoin d'argent. Il proposa soudain au vieux notaire de lui acheter ses propriétés. Cette vente fut signée et consommée en 2 jours. Le pauvre Chesnel ne put supporter l'idée de savoir l'enfant de la maison détenu pour dette pendant 5 ans. Quelques jours après, il ne resta donc plus au notaire que son étude, ses recouvrements et sa maison. Chesnel se promena, dépouillé de ses biens, sous les lambris en chêne noir de son cabinet, regardant les solives de châtaigniers à filets sculptés, regardant sa treille par la fenêtre, ne pensant plus à ses fermes ni à sa chère campagne du Jard. Non. Que deviendra-t-il? Il faut le rappeler, le marier à une riche héritière, se disait-il, les yeux troublés et la tête pesante. Il ne savait comment aborder Mademoiselle Armande, ni en quels termes lui apprendre cette nouvelle. Lui, qui venait de solder le compte des dettes au nom de la famille, tremblait d'avoir à parler de ces choses. En allant de la rue du Bercail à l'hôtel d'Esgrignon, le bon vieux notaire était palpitant comme une jeune fille qui se sauve de la maison paternelle pour n'y revenir que mère et désolée. Mademoiselle Armande venait de recevoir une lettre charmante d'hypocrisie, où son neveu paraissait être l'homme du monde le plus heureux. Après être allé aux eaux et en Italie avec Madame de Maufrigneuse, Victurnien envoyait le journal de son voyage à sa tante. L'amour respirait dans toutes ses phrases. Tantôt une ravissante description de Venise et d'enchanteresses appréciations des chefs-d'œuvre de l'art italien, tantôt des pages divines sur le dôme de Milan, sur Florence, ici la peinture des Apennins opposée à celle des Alpes, là des villages comme celui de Chiavari, où l'on trouvait autour de soi le bonheur tout fait, fascinait la pauvre tante qui voyait planant à travers ces contrées d'amour un ange dont la tendresse prêtait à ces belles choses un air enflammé. Mademoiselle Armande savourait cette lettre à longs traits, comme le devait une fille sage, mûrie au feu des passions contraintes, comprimée, victime des désirs offerts en holocauste, sur l'autel domestique, avec une joie constante. Elle n'avait pas l'air ange comme la duchesse, elle ressemblait alors à ces statuettes droites, minces, élancées, de couleur jaune, que les merveilleux artistes des cathédrales ont mises dans quelques angles, au pied desquels l'humidité permet aux liserons de croître et de les couronner par un beau jour d'une belle cloche bleue. En ce moment, la clochette s'épanouissait aux yeux de cette sainte. Mademoiselle Armande aimait fantastiquement ce beau couple. Elle ne trouvait pas condamnable l'amour d'une femme mariée pour Victurnien. Elle l'eût blâmé dans tout autre, mais le crime ici aurait été de ne pas aimer son neveu. Les tantes, les mères et les sœurs ont une jurisprudence particulière pour leurs neveux, leurs fils et leurs frères. Elles se voyaient donc au milieu des palais bâtis par les fées, sur les deux lignes du Grand Canal à Venise. Elle y était dans la gondole de Victurnien, qui lui disait combien il avait été heureux de sentir dans sa main la belle main de la duchesse et d'être aimé en voyageant sur le sein de cette amoureuse reine des mers italiennes. En ce moment d'angélique béatitude, apparut au bout de l'année Chesnel. Hélas, le sable criait sous ses pieds, comme celui qui tombe du sablier de la mort et qu'elle broie avec ses pieds sans chaussures. Ce bruit et la vue de Chesnel dans un état d'horrible désolation donnèrent à la vieille fille la cruelle émotion que cause le rappel des sens envoyés par l'âme dans les pays imaginaires. « Qu'y a-t-il ? » s'écria-t-elle comme frappée d'un coup au cœur. « Tout est perdu, dit Chesnel. Monsieur le comte déshonorera la maison si nous n'y mettons ordre. » Il montra les lettres de change. Il peignit les tortures qu'il avait subies depuis 4 jours, en peu de mots simples, mais énergiques et touchants. « Le malheureux, il nous trompe !» s'écria mademoiselle Armande, dont le cœur se dilata sous l'affluence du sang qui abondait par grosses vagues. « Disons notre mea culpa, mademoiselle, reprit d'une voix forte le vieillard. Nous l'avons habitué à faire ses volontés. Il lui fallait un guide sévère, et ce ne pouvait être ni vous qui êtes une fille, ni moi qu'il n'écoutait pas. Il n'a pas eu de mère. » « Il y a de terribles fatalités pour les races nobles qui tombent, » dit mademoiselle Armande, les yeux en pleurs. En ce moment, le marquis se montra. Le vieillard revenait de sa promenade en lisant la lettre que son fils lui avait écrite à son retour, en lui dépeignant son voyage au point de vue aristocratique. Victurnien avait été reçu par les plus grandes familles italiennes, à Gênes, à Turin, à Milan, à Florence, à Venise, à Rome, à Naples. Il avait dû leur flatteur accueil à son nom et aussi à la duchesse, peut-être. Enfin, il s'y était montré magnifiquement, et comme devait se produire un d'Esgrignon. Tu auras fait des tiennes, Chesnel, dit-il au vieux notaire. Mademoiselle Armande fit signe à Chesnel, un signe ardent et terrible, également bien compris par tous deux. Ce pauvre père, cette fleur d'honneur féodal, devait mourir avec ses illusions. Un pacte de silence et de dévouement entre le noble notaire et la noble fille fut conclu par une simple inclination de tête. « Ah, Chesnel, ce n'est pas tout à fait comme ça que les d'Esgrignon sont allés en Italie vers le XVe siècle, quand le maréchal Trivulse, au service de France, servait sous un d'Esgrignon qui avait Bayard sous ses ordres. Autre temps, autre plaisir. » La duchesse de Maufrigneuse vaut d'ailleurs bien la marquise de Spinola. Le vieillard se balançait d'un air fat, comme s'il avait eu la marquise de Spinola et comme s'il possédait la duchesse moderne. Quand les deux affligés furent seuls, assis sur le même banc, réunis dans une même pensée, ils se dirent pendant longtemps l'un à l'autre des paroles vagues, insignifiantes, en regardant ce père heureux qui s'en allait en gesticulant comme s'il se parlait à lui-même. « Que va-t-il devenir ? » disait mademoiselle Armande. « Du Croisier a donné l'ordre à messieurs Keller de ne plus lui remettre de sommes sans titre, » répondit Chesnel. « Il a des dettes, » reprit mademoiselle Armande. « Je le crains. S'il n'a plus de ressources, que fera-t-il ? Je n'ose me répondre à moi-même. Mais il faut l'arracher à cette vie, l'amener ici, car il arrivera à manquer de tout. Et à manquer à tout, répéta lugubrement Chesnel. Mademoiselle Armande ne comprit pas encore, elle ne pouvait pas comprendre le sens de cette parole. Comment le soustraire à cette femme, à cette duchesse qui peut-être l'entraîne, dit-elle. Il fera des crimes pour rester auprès d'elle, dit Chesnel, en essayant d'arriver par des transitions supportables à une idée insupportable. « Des crimes ?» répéta mademoiselle Armande. « Ah, Chesnel, cette idée ne peut venir qu'à vous » ajouta-t-elle, en lui jetant un regard accablant, le regard par lequel la femme peut foudroyer les dieux. « Les gentilshommes ne commettent d'autres crimes que ceux dits de haute trahison, et on leur coupe alors la tête sur un drap noir, comme au roi. » « Les temps sont bien changés, » dit Chesnel, en branlant sa tête de laquelle Victurnien avait fait tomber les derniers cheveux. « Notre roi martyr n'est pas mort comme Charles d'Angleterre. » Cette réflexion calma le magnifique courroux de la fille noble. Elle eut le frisson sans croire encore à l'idée de Chesnel. « Nous prendrons un parti demain, » dit-elle. « Il y faut réfléchir. Nous avons nos biens en cas de malheur. »« Oui, » reprit Chesnel. « Vous êtes indivis avec monsieur le marquis. La plus forte part vous appartient. Vous pouvez l'hypothéquer sans lui rien dire. » Pendant la soirée, les joueurs et les joueuses de whist, de reversi, de boston, de trictrac remarquèrent quelque agitation dans les traits ordinairement si calmes et si purs de Mademoiselle Armande. « Pauvre enfant sublime, dit la vieille marquise de Catéran, elle doit souffrir encore. Une femme ne sait jamais à quoi elle s'engage en faisant les sacrifices qu'elle a faits à sa maison. » Il fut décidé le lendemain avec Chesnel que Mademoiselle Armande irait à Paris arracher son neveu à sa perdition. Si quelqu'un pouvait opérer l'enlèvement de Victurnien, n'était-ce pas la femme qui avait pour lui des entrailles maternelles ? Mademoiselle Armande, décidée à aller trouver la duchesse de Maufrigneuse, voulait tout déclarer à cette femme, mais il fallut un prétexte pour justifier ce voyage aux yeux du marquis et de la ville. Mademoiselle Armande risqua toutes ses pudeurs de fille vertueuse en laissant croire à quelque maladie qui exigeait une consultation de médecin habile et renommé. Dieu sait si l'on en causa. Mademoiselle Armande voyait un bien autre honneur que le sien au jeu. Elle partit. Chesnel lui apporta son dernier sac de louis, elle le prit, sans même y faire attention, comme elle prenait sa capote blanche et ses mitaines de filet. « Généreuse fille, quelle grâce !» dit Chesnel en la mettant en voiture, elle et sa femme de chambre qui ressemblait à une sœur grise. Du Croisier avait calculé sa vengeance comme les gens de province calculent tout. Il n'y a rien au monde que les sauvages, les paysans et les gens de province pour étudier à fond leurs affaires dans tous les sens. Aussi, quand ils arrivent de la pensée au fait, trouvez-vous les choses complètes. Les diplomates sont des enfants. Auprès de ces trois classes de mammifères qui ont le temps devant eux, cet élément qui manque aux gens obligés de penser à plusieurs choses, obligés de tout conduire, de tout préparer dans les grandes affaires humaines. Du Croisier avait-il si bien sondé le cœur du pauvre Victurnien qu'il eût prévu la facilité avec laquelle il se prêterait à sa vengeance, ou bien profita-t-il d'un hasard épié durant plusieurs années ? Il y a certains détails qui prouvent une certaine habileté dans la manière dont se prépara le coup. Qui avertissait du Croisier ? Était-ce les Keller ? Était-ce le fils du président du Ronceret qui achevait son droit à Paris ? Du Croisier écrivit à Victurnien une lettre pour lui annoncer qu'il avait défendu aux Keller de lui avancer aucune somme désormais, au moment où il savait la duchesse de Maufrigneuse dans les derniers embarras, et le comte d'Esgrignon dévoré par une misère aussi effroyable que savamment déguisée. Ce malheureux jeune homme déployait son esprit à feindre l'opulence. Cette lettre qui disait à la victime que les Keller ne lui remettraient rien sans des valeurs laissait entre les formules d'un respect exagéré et la signature un espace assez considérable. En coupant ce fragment de lettre, il était facile d'en faire un effet pour une somme considérable. Cette infernale lettre allait jusque sur le verso du second feuillet. Elle était sous enveloppe, le revers se trouvait blanc. Quand cette lettre arriva, Victurnien roulait dans les abîmes du désespoir. Après 2 ans passés dans la vie la plus heureuse, la plus sensuelle, la moins penseuse, la plus luxueuse, il se voyait face à face avec une inexorable misère, une impossibilité absolue d'avoir de l'argent. Le voyage ne s'était pas achevé sans quelques tiraillements pécuniaires. Le comte avait extorqué très difficilement, la duchesse aidant, plusieurs sommes à des banquiers. Ces sommes, représentées par des lettres de change, allaient se dresser devant lui dans toute leur rigueur, avec les sommations implacables de la banque et de la jurisprudence commerciale. À travers ses dernières jouissances, ce malheureux enfant sentait la pointe de l'épée du commandeur. Au milieu de ses soupers, il entendait comme Don Juan le bruit lourd de la statue qui montait les escaliers. Il éprouvait ces frissons indicibles que donne le sirocco de dette. Il comptait sur un hasard. Il avait toujours gagné à la loterie depuis 5 ans. Sa bourse s'était toujours remplie. Il se disait qu'après Chesnel était venu du Croisier, qu'après du Croisier jaillirait une autre mine d'or. D'ailleurs, il gagnait de fortes sommes au jeu. Le jeu l'avait sauvé déjà de plusieurs mauvais pas. Souvent, dans un fol espoir, il allait perdre au salon des étrangers le gain qu'il faisait au cercle ou dans le monde au whist. Sa vie, depuis 2 mois, ressemblait à l'immortel finale du Don Juan de Mozart. Cette musique doit faire frissonner certains jeunes gens parvenus à la situation où se débattait Victurnien. Si quelque chose peut prouver l'immense pouvoir de la musique, n'est-ce pas cette sublime traduction du désordre, des embarras qui naissent dans une vie exclusivement voluptueuse, cette peinture effrayante du parti pris de s'étourdir sur les dettes, sur les duels, sur les tromperies, sur les mauvaises chances ? Mozart est dans ce morceau, le rival heureux de Molière. ce terrible final ardent, vigoureux, désespéré, joyeux, plein de fantômes horribles et de femmes lutines, marqué par une dernière tentative qu'allument les vins du souper et par une défense enragée, tout cet infernal poème, Victurnien le jouait à lui seul. Il se voyait seul, abandonné, sans amis, devant une pierre où était écrit comme au bout d'un livre enchanteur le mot « fin ». Oui, tout allait finir pour lui. Il voyait par avance le regard froid et railleur, le sourire par lequel ses compagnons accueilleraient le récit de son désastre. Il savait que parmi eux, qui hasardaient des sommes importantes sur les tapis verts que Paris dresse à la bourse, dans les salons, dans les cercles, partout, nul n'en distrairait un billet de banque pour sauver un ami. Chesnel devait être ruiné. Victurnien avait dévoré Chesnel. Toutes les furies étaient dans son cœur et se le partageaient quand il souriait à la duchesse, aux Italiens, dans cette loge où leur bonheur faisait envie à toute la salle. Enfin, pour expliquer jusqu'où il roulait dans l'abîme du doute, du désespoir et de l'incrédulité, lui qui aimait la vie jusqu'à devenir lâche pour la conserver, cet ange la lui faisait si belle. Eh bien, il regardait ses pistolets, il allait jusqu'à concevoir le suicide, lui, ce voluptueux mauvais sujet, indigne de son nom. Lui, qui n'aurait pas souffert l'apparence d'une injure, il s'adressait ces horribles remontrances que l'on ne peut entendre que de soi-même. Il laissa la lettre de Ducroisier ouverte sur son lit. Il était 9 heures quand Joséphin la lui remit, et il avait dormi au retour de l'opéra, quoique ses meubles fussent saisis. Mais il avait passé par le voluptueux réduit, où la duchesse et lui se retrouvaient pour quelques heures après les fêtes de la cour, après les bals les plus éclatants, les soirées les plus splendides. Les apparences étaient très habilement sauvées. Ce réduit était une mansarde vulgaire en apparence, mais que les périls de l'Inde avaient décorée, et où Madame de Maufrigneuse était obligée, en entrant, de baisser sa tête chargée de plumes ou de fleurs. À la veille de périr, le comte avait voulu dire adieu à ce nid élégant, bâti par lui qui en avait fait une poésie digne de son ange, et où désormais les œufs enchantés, brisés par le malheur, n'écloraient plus en blanches colombes, en bengalis brillants, en flamants roses, en 1000 oiseaux fantastiques qui voltigent encore au-dessus de nos têtes pendant les derniers jours de la vie. Hélas, dans 3 jours il fallait fuir, les poursuites pour des lettres de change données à des usuriers étaient arrivées au dernier terme. Il lui passa par la cervelle une atroce idée, fuir avec la duchesse, aller vivre dans un coin ignoré, au fond de l'Amérique du Nord ou du Sud, mais fuir avec une fortune et en laissant les créanciers nez à nez avec leurs titres. Pour réaliser ce plan, il suffisait de couper ce bas de lettres signé Ducroisier, d'en faire un effet et de le porter chez les Keller. Ce fut un combat affreux où il y eut des larmes répandues et où l'honneur de la race triompha, mais sous condition. Victurnien voulut être sûr de sa belle Diane. Il subordonna l'exécution de son plan à l'assentiment qu'elle donnerait à leur fuite. Il vint chez la duchesse, rue du Faubourg Saint-Honoré. Il la trouva dans un de ces négligés coquets qui lui coûtaient autant de soins que d'argent et qui lui permettaient de commencer son rôle d'ange dès 11 heures du matin. Madame de Maufrigneuse était à demi pensive. Mêmes inquiétudes la dévoraient, mais elle les supportait avec courage. Parmi les organisations diverses que les physiologistes ont remarquées chez les femmes, il en est une qui a je ne sais quoi de terrible, qui comporte une vigueur d'âme, une lucidité d'aperçu, une promptitude de décision, une insouciance, ou plutôt un parti pris sur certaines choses dont s'effraierait un homme. Ces facultés sont cachées sous les dehors de la faiblesse la plus gracieuse. Ces femmes, seules entre les femmes, offrent la réunion, ou plutôt le combat, de 2 êtres que Buffon ne reconnaissait existants que chez l'homme. Les autres femmes sont entièrement femmes, elles sont entièrement tendres, entièrement mères, entièrement dévouées, entièrement nulles ou ennuyeuses. Leurs nerfs sont d'accord avec leur sang, et le sang avec leur tête. Mais les femmes, comme la duchesse, peuvent arriver à tout ce que la sensibilité a de plus élevé, et faire preuve de la plus égoïste insensibilité. L'une des gloires de Molière est d'avoir admirablement peint, d'un seul côté seulement, ses natures de femmes dans la plus grande figure qu'il ait taillée en plein marbre, Célimène. Célimène qui représente la femme aristocratique, comme Figaro, cette seconde édition de Panurge, représente le peuple. Ainsi, accablée sous le poids de dettes énormes, la duchesse s'était ordonnée à elle-même, absolument comme Napoléon oubliait et reprenait à volonté le fardeau de ses pensées, de ne songer à cette avalanche de soucis qu'en un seul moment et pour prendre un parti définitif. Elle avait la faculté de se séparer d'elle-même et de contempler le désastre à quelques pas au lieu de se laisser enterrer dessous. C'était certes grand, mais horrible dans une femme. Entre l'heure de son réveil, où elle avait retrouvé toutes ses idées, et l'heure où elle s'était mise à sa toilette, elle avait contemplé le danger dans toute son étendue, la possibilité d'une chute épouvantable. Elle méditait. La fuite en pays étranger, ou aller au roi et lui déclarer sa dette, ou séduire un riche banquier et payer en jouant à la bourse avec l'or qu'il lui donnerait. Le juif serait assez spirituel pour n'apporter que des bénéfices et ne jamais parler de pertes, délicatesse qui gazerait tout. Ces divers moyens, cette catastrophe, tout avait été délibéré froidement, avec calme, sans trépidation. De même qu'un naturaliste prend le plus magnifique des lépidoptères et le fiche sur du coton avec une épingle, Madame de Maufrigneuse avait ôté son amour de son cœur pour penser à la nécessité du moment, prête à reprendre sa belle passion sur sa ouate immaculée quand elle aurait sauvé sa couronne de duchesse. Point de ces hésitations que Richelieu ne confiait qu'au père Joseph, que Napoléon cacha d'abord à tout le monde, elle s'était dit « ou ceci, ou cela ». Elle était au coin de son feu, commandant sa toilette pour aller au bois, si le temps le permettait, quand Victurnien entra. Malgré ses capacités étouffées et son esprit si vif, le comte était comme aurait dû être cette femme. Il avait des palpitations au cœur, il suait dans son harnais de dandy, il n'osait encore porter une main sur une pierre angulaire qui, retirée, allait faire crouler la pyramide de leur nouvelle existence. Il lui en coûtait tant d'avoir une certitude. Les hommes les plus forts aiment à se tromper eux-mêmes sur certaines choses où la vérité connue les humilierait, les offenserait d'eux à eux. Victurnien força sa propre incertitude à venir sur le terrain en lâchant une phrase compromettante.